Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Intéressons-nous aujourd'hui à la constellation du Bouvier. Cette constellation boréale est facilement repérable grâce à son étoile la plus brillante, Arcturus. On la repère facilement car c'est l'étoile brillante que l'on trouve en prolongeant la queue de la Grande Ourse. Arcturus est dans le bas de la constellation du Bouvier, qui dessine au-dessus d'elle comme un grand cerf-volant. Cette constellation porte le nom de Bouvier depuis très longtemps. Cependant, il est assez difficile de dire ce que ce Bouvier représente. Le Bouvier, normalement, c'est celui qui garde et conduit les bœufs, un cow-boy, en quelque sorte. Selon une version, il s'agit d'un laboureur qui conduit les sept bœufs, le Septem Triones, de la constellation de la Grande Ourse, à l'aide de ses deux chiens, Cara et Astérion, ça c'est la constellation des chiens de chasse. Les bœufs seraient liés à l'axe polaire et le Bouvier perpétuerait la rotation des cieux. Le Bouvier pourrait être également Philomélos, l'inventeur de la charrue, ce qui plut à sa mère, Déméter, déesse des moissons, qui le fixa définitivement sur la voûte céleste pour le célébrer. Une autre version décrit le Bouvier comme un vigneron nommé Icarius qui autorisa Bacchus à inspecter ses vignes, lequel lui révéla le secret de la fabrication du vin. Icarius invita ses amis à déguster le breuvage, mais tous en burent trop et ne se réveillèrent que le lendemain, pensant qu'Icarius avait tenté de les empoisonner. Par vengeance, ils l'assassinèrent dans son sommeil. Plusieurs constellations, aujourd'hui obsolètes, furent construites à partir de certaines étoiles du Bouvier. Le nord du Bouvier est parfois nommé le Cadran Mural, constellation créée en 1795 par l'astronome Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande, qui souhaitait placer dans les cieux son principal outil de travail. Vous remarquerez que cette constellation a été créée pendant la période révolutionnaire où on aimait bien renommer les choses. C'était une constellation près de Bêta du Bouvier, construite à partir d'étoiles de faible magnitude. Les plus brillantes atteignaient une magnitude 5, qui appartenait à l'est du Bouvier, à l'ouest de la constellation Hercule et un petit peu au Dragon aussi. Lalande a travaillé notamment avec Nicole Reine-Lepaute, une mathématicienne et astronome française, née le 5 janvier 1723 à Paris et morte dans la même ville en 1788. Elle est, avec Caroline Herschel et la marquise du Châtelet, une des principales femmes scientifiques du siècle des Lumières. Le cadran mural s'appelait à l'origine le mural, tout simplement. Ce nom complet de Cadrans Muralis ne lui a été donné que dans l'Uranographia de Johann Bode en 1801. Cette constellation a disparu depuis, mais elle a laissé son nom au Cadrantide, un essaim de météores provenant de cette partie du ciel qui peut être vu au début du mois de janvier. La principale étoile de notre constellation du Bouvier, c'est Arcturus. Arcturus est très brillante, elle est observée depuis très longtemps et elle a laissé des traces dans de nombreuses mythologies. Son nom, Arcturus, vient du grec ancien, Arcturos, qui signifie le gardien des ours, probablement en raison de sa proximité avec la grande et la petite ours. Elle est citée pour la première fois par Hésiode. Son lever héliaque, c'est-à-dire le moment où on commence à pouvoir l'observer juste avant le lever du soleil, est à la mi-septembre et sert de point de repère aux Grecs. Son appartenance à la constellation du Bouvier illustre le mélange entre la mythologie grecque, les ours et leurs gardiens, et la mythologie romaine, où la grande ourse représente une charrue tirée par les bœufs, d'où la présence d'un bouvier. En astronomie chinoise, cette étoile est appelée Dajiao. Elle représente à elle seule un astérisme, qui symbolise le roi céleste, l'identification étant manifestement motivée par la très très grande brillance d'Arcturus. En hawaïen, Arcturus se nomme Okulei, l'étoile du bonheur. Elle est l'étoile zénitale de l'île principale d'Hawaï et elle permettait aux navigateurs venant de l'hémisphère sud de rejoindre aisément le groupe des îles Sandwich. Et c'est en hommage à cette étoile qu'a été nommée la pirogue double traditionnelle, la première des temps modernes, à réussir une traversée entre Hawaï et Tahiti sans instrument de navigation en 1976. Revenons à Arcturus. Arcturus est d'un diamètre à peu près 25 fois celui du Soleil. Elle est de couleur orangé-rouge. C'est une étoile assez âgée qui a évolué en géante rouge. À terme, elle terminera sa vie en nébuleuse planétaire. Cette phase durera encore quelques dizaines de milliers d'années et laissera apparaître son cœur mis à nu. L'étoile évoluera alors vers le stade ultime de naine blanche. Arcturus a la particularité de se déplacer sur le fond du ciel, plus rapidement que la plupart des étoiles, d'environ 1 degré en seulement 1600 ans, ce qui en fait l'étoile brillante au mouvement propre le plus élevé. En astronomie, on appelle mouvement propre le mouvement apparent des étoiles sur la sphère céleste vue de la Terre. il fut découvert en 1718 par Edmund Halley, qui a donné son nom à la comète de Halley. Lorsqu'il remarqua que les positions de Sirius et d'Arcturus s'écartaient de plus d'un demi-degré de celles mesurées par Hipparque, à peu près 1850 ans auparavant. À première vue, et à la mesure d'une vie humaine, les étoiles semblent occuper une position toujours fixe sur la sphère céleste. Cela signifie qu'elles formeraient toujours les mêmes astérismes, que par exemple la Grande Ourse aurait exactement la même apparence dans un siècle ou dans un millénaire que ce qu'elle a actuellement. Mais ça, ce n'est pas exact. Les observations précises et étalées dans le temps montrent que les constellations changent lentement de forme et que les étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres. En général, un mouvement propre élevé signifie qu'une étoile est proche de la Terre. Pour comprendre ce phénomène, il vous suffit d'observer le paysage quand vous êtes en voiture. Les éléments proches, les arbres, les maisons, passent vite devant vos yeux, alors que les éléments lointains, les villages, les montagnes, donnent l'impression de ne pas bouger. Arcturus fait partie d'un groupe d'étoiles, qu'on appelle le flux d'Arcturus, dont la vitesse, à peu près 100 km par seconde, et l'abondance en éléments lourds, suggèrent que ce sont des étoiles qui proviennent d'une petite galaxie qui serait entrée en collision et aurait fusionné avec la Voie lactée il y a 5 à 8 milliards d'années. Ce groupe est constitué de 52 autres étoiles de ce type. Arcturus est donc assez proche, elle n'est qu'à 36 années-lumière de la Terre. Profitons-en pour parler un petit peu des distances en astronomie. D'abord, parlons de la Terre. L'unité internationale pour mesurer les distances, c'est le mètre. Tout le monde voit à peu près ce que ça représente un mètre. Nous utilisons fréquemment le kilomètre dès qu'il s'agit de parler de distance entre des villages, des régions ou des pays. Mais à l'échelle de l'espace, utiliser des kilomètres, et même des mètres, c'est vraiment trop fastidieux. Par exemple, l'objet stellaire le plus proche de nous, c'est la Lune, notre satellite naturel. Elle est en gros à 400 000 km de la Terre. Cette distance varie entre 356 et 406 000. Bon, mais restons simples, on va prendre un nombre rond, 400 000. 400 000, ça fait déjà beaucoup. C'est une quantité difficile à se représenter. Et encore, la Lune est très proche de la Terre. Le Soleil, lui, est à 150 millions de kilomètres. Alors là, on a changé d'échelle. On a multiplié par presque 1000. Et encore, le Soleil, c'est vraiment l'étoile la plus proche de nous. La seconde étoile la plus proche de nous, c'est l'étoile Proxima, dans la constellation du Centaure. Elle, elle est à une distance qui, exprimée en kilomètres, s'écrit avec 14 chiffres. Alors évidemment là, une autre unité est nécessaire. La plus communément utilisée, c'est l'année-lumière. C'est-à-dire, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, dans le vide. Mais alors comment sait-on quelle distance ça représente? Pour ça, il faut connaître la vitesse de la lumière. Dans notre quotidien, nous avons l'impression que la lumière est instantanée. Mais dans les calculs de longue distance, sa valeur a un effet notable. L'histoire de la mesure de la vitesse de la lumière est passionnante. Laissez-moi vous la raconter. Tout commence au XVIIe siècle. À cette époque, le problème scientifique de la détermination de la longitude posait d'importants problèmes pratiques pour la navigation et la cartographie. En effet, il est assez simple de déterminer la latitude, ça c'est la position nord-sud d'un point sur une carte. Sa mesure est maîtrisée depuis l'Antiquité grâce au soleil et à un outil appelé le gnomon. Mais la latitude, elle, est beaucoup plus difficile à déterminer, surtout quand on est en mer. Devant le nombre important d'accidents maritimes dus à l'absence de méthodes suffisamment précises pour déterminer la position est-ouest des navires, le Parlement britannique, sous la pression des commerçants et des armateurs, vota une loi. Dans cette loi dite Longitude Act, qui date de 1714, la Grande-Bretagne offrait un prix de 20 000 livres sterling, ça fait plusieurs millions d'euros actuels, à toute personne capable de concevoir un moyen de déterminer la longitude de façon pratique, fiable, en toutes circonstances, à bord d'un bâtiment en mer. Évidemment, beaucoup de scientifiques se sont attelés à la tâche, persuadés que la solution viendrait de l'observation précise des étoiles et des astres. Parmi ces scientifiques, le jeune Danois, Ole Rømer, a fait des observations de satellites de Jupiter, plus particulièrement de Io, et mesure précisément les moments où ces satellites sont éclipsés par Jupiter, c'est-à-dire le moment où ils sont cachés par la planète et où ils disparaissent derrière elle. Il se rend compte que la durée des éclipses varie au cours de l'année. Comme il était assez confiant que la période orbitale de Io ne changeait pas réellement, il en a déduit qu'il s'agissait d'un effet de l'observation. Les trajectoires orbitales de la Terre et de Jupiter étaient disponibles, il connaissait ces valeurs. Il remarqua que les périodes au cours desquelles la Terre et Jupiter s'éloignaient correspondaient toujours à un intervalle de temps plus grand entre les éclipses. Inversement, les moments où la Terre et Jupiter se rapprochaient était toujours accompagné d'une diminution de l'intervalle de temps entre les éclipses. Rohmer formula que cet écart pourrait être expliqué de manière satisfaisante si la lumière possédait une vitesse finie, qu'il calcule comme étant équivalente à 220 000 km par seconde. Si nous revenons à notre année-lumière, cette distance est donc de 300 000 fois le nombre de secondes dans une année julienne, hein, c'est-à-dire 365 jours écart. Ça fait 300 000 fois 31 557 600, ça fait un petit peu plus de 9 000 milliards de kilomètres. Arcturus est donc à 36 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que quand j'observe Arcturus, la lumière qui frappe mon œil a été émise il y a 36 ans, quand j'étais encore en maternelle. Et pour les étoiles les plus lointaines, les distances sont de plusieurs milliers d'années-lumière. Par exemple, Rho de Cassiopée, qui est la plus lointaine des étoiles visibles à l'œil nu, est à 8600 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière qui nous parvient aujourd'hui a été émise à l'époque du Néolithique, à la fin de la préhistoire. Quand nous regardons loin, nous regardons dans le passé. Et plus nous regardons loin, avec des télescopes, plus nous regardons dans le passé. Les scientifiques, en observant d'autres longueurs d'onde que la lumière visible, peuvent même remonter presque à l'origine de l'univers. C'est ce qu'ils font quand ils mesurent le fond diffus cosmologique, ce rayonnement micro-ondes qui remonte à 380 000 années après le Big Bang, après la création de l'univers, c'est-à-dire juste après la création de l'univers, à l'échelle de l'âge de l'univers qui est de 14 milliards d'années. Ce rayonnement a 14 milliards d'années. Et c'est ce rayonnement qui est chargé d'observer le télescope spatial Euclide. Lancé l'année dernière, souvenez-vous, nous en avions déjà parlé. Euclide devait à l'origine être lancé par Ariane 6, mais qui avait du retard. Ariane 6 aura finalement été lancé cette année avec succès en juillet 2024. Et puis faute de pouvoir utiliser une fusée russe à cause de la guerre en Ukraine, Euclide avait finalement été lancé par une fusée Falcon 9 de SpaceX. Ce télescope spatial est chargé de cartographier l'univers pour déterminer le rôle de l'énergie sombre dans l'accélération de son expansion. Le télescope situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre avait la vision peu à peu embuée par une fine couche de givre, pas plus épaisse qu'un brin d'ADN. Les ingénieurs de l'ESA ont élaboré une technique de réchauffement progressif des deux miroirs qui semble pour l'instant porter ses fruits et Euclide y voit à nouveau clair.